Bonjour. Juste avant le message biblique, je suis heureux de vous annoncer que l'ETF est maintenant prêt à recevoir les étudiants pour la session d'automne 2020, qui débutera le 1er septembre. Nous travaillons très fort pour mettre en place toutes les mesures et protocoles sanitaires nécessaires afin d'assurer que notre salle de classe, notre bibliothèque et tous nos espaces communs soient prêts, adaptés et sécuritaires pour tous. Les étudiants réguliers pourront suivre leur formation en ligne ou en direct sur le campus et les auditeurs libres en ligne. Il n'y a jamais un moment plus important que celui-ci pour acquérir une formation théologique de qualité, qui ne soit pas seulement biblique et chrétienne, mais également pratique, pertinente et utile. Je vous invite à visiter le site Internet de l'ETF, l'adresse que vous voyez sur l'écran, pour consulter la grille horaire des cours offerts en direct, qui inclut un cours de communication de la parole avec Pasteur Claude ainsi que moi-même et d'autres pasteurs prédicateurs. Ne tardez-vous pas à vous inscrire car les places sont limitées exceptionnellement pour cette session automne 2020. L'ETF est lancé dans quelques semaines pour une nouvelle session. Moi, je suis heureux d'ajouter ma voix à cette série de messages « Pourquoi croire? » Pourquoi croire en l'existence de Dieu, la création de Dieu, l'amour de Dieu et en son Fils Jésus, sa naissance, sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension et son éventuellement retour sur la terre? Pourquoi croire la bonne nouvelle de la possibilité de nouvelle naissance, une nouvelle vie, accessible à tous, ouvert à tous et possible pour tous par le don de la repentance et la foi en Christ. Pourquoi croire que la foi chrétienne offre tellement pour la vie ici-bas et celle à venir, pour aujourd'hui et pour l'éternité? Pourquoi croire que ce qui est écrit dans ce livre, la Bible, est vrai, crédible et fiable? Une question à laquelle je vais tenter de répondre en quelques instants. Et notre prière par ces messages est que chaque personne qui les écoute, sans exception, pourra déclarer avec conviction et confiance, il y a dans les cieux un Dieu. Comme Daniel devant Nebuchadnezzar, trouvé en Daniel chapitre 2, quand le grand roi lui demande la source de ses capacités, son intelligence, son discernement surnaturel et sa distinction parmi les autres sages du royaume. Quand il a demandé à Daniel, « Daniel, pourquoi que tu es un homme différent? C'est quoi qui fait la différence dans ta vie? » Et la réponse de Daniel est magnifique. Avec confiance, courage et conviction, Daniel déclare, « Ça n'a rien à faire avec moi, cher roi. Il y a dans les cieux un Dieu. Il y a dans les cieux un Dieu. » Pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui souffrent dans leur corps, il y a encore dans les cieux un Dieu. Pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui souffrent dans leur tête ou dans leurs émotions, pour toute personne seule, désespérée, perdue ou pauvre, il y a dans les cieux un Dieu, le même Dieu que pour Daniel. Pour toutes les personnes qui trouvent la pandémie avec ses diverses séquelles interminables, il y a dans les cieux un Dieu capable et compatissant, un Dieu présent et puissant, un Dieu vivant et vrai. Oui, vrai. Il y a dans les cieux un Dieu réel et actuel, un Dieu qui est là pour le vrai. Comme Pierre a écrit dans 2 Pierre 1, 16, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté avec nos propres yeux, de nos propres yeux. Pierre est clair. Notre foi n'est pas basée sur des fables, mais sur des faits. Comme il n'est pas basé non plus sur des sentiments ou des émotions, mais des faits. Comme nous disons en anglais, « Christianity is not a feeling, it's a fact ». Et nous voulons vous présenter ces faits avec cette série de messages de genre apologétique, qui veut dire une défense de la religion chrétienne par la raison. et non pas seulement par les émotions ou les sentiments ou les témoignages personnels uniquement, mais la raison, la logique. Car nous croyons que la foi chrétienne est entièrement raisonnable, logique et rationnelle. Comme nous croyons que ce qui est écrit dans ce livre est raisonnable, logique et rationnel, donc crédible. Mais comment savoir que la Bible est vraie, fiable et crédible? Comment savoir que la Bible est la parole de Dieu? Évidemment, nous pouvons parler des heures à ce sujet. Mais donnez-moi quelques minutes de votre temps pour énumérer et expliquer quelques faits importants et intéressants au sujet de la Bible. La Bible qui est connue comme le livre parmi tous les livres. Car la Bible est le livre le plus vendu dans l'histoire du monde. En plus, la Bible est traduite en plus que 2000 langues, quand nous incluons les traductions du Nouveau Testament. Le deuxième livre le plus traduit tourne autour de 300 langues. Et selon Time Magazine, dans une édition sur la Bible, ils disent tout simplement, « La Bible est le livre le plus influent qui n'ait jamais été écrit. Non seulement c'est le best-seller de tous les temps, mais il continue de l'être année après année. Dû à la beauté du langage, le niveau de la profondeur des sujets abordés, la diversité des sujets traités, le nombre d'éditions et de traductions effectuées et le réconfort et l'espoir qu'elle procure à des milliards de personnes. Bien dit. En plus, la Bible est non seulement le livre le plus vendu, mais comme dit cet article dans Time Magazine, le plus influent. Elle a contribué non seulement à la vie spirituelle, chrétienne et religieuse du monde entier depuis des millénaires, mais aussi à la littérature, les arts, les films, la musique, la sagesse, les lois, la justice, la poésie et la culture mondiale. Qui ne connaît pas les expressions comme le bon berger, le bon samaritain, le fils prodigue, le brebis perdu, œil pour œil, dent pour dent, le gardien de mon frère, la sagesse du Salomon, pauvre comme Job, la peau des dents, vanité des vanités. Un homme ne vivra pas par pain seulement, les signes, le signe des temps, le bon et fidèle serviteur, s'en laver les mains. Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre, une épine dans la chair, Armageddon, le loup dans la bergerie, montrer l'autre joue, faire le mille de plus, la pluie tombe sur les justes et les injustes, le péché mortel, aime ton prochain comme toi-même, le ciel et l'enfer, la grâce de Dieu, juste pour nommer quelques-uns, toutes des expressions qui trouvent leurs origines dans la Bible. Et qui n'a pas entendu les histoires de Noé et le déluge, les plaies sur l'Égypte et l'Exode, Daniel dans le fosse au lion, Sodome et Gomorre, Samson et Delila, Jonas et la baleine, la conversion de Paul sur le chemin vers Damas, David et Goliath, la tour de Babel, encore juste pour nommer quelques-uns des histoires bibliques renommées et connues mondialement depuis des siècles, racontées et re-racontées dans des livres et des films depuis des générations. Et tout cela, sans nommer la plus belle et la plus grande et la plus puissante histoire jamais racontée, celle de la naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Une histoire racontée et racontée des milliers de fois qu'on retrouve dans la littérature, les films, l'art, les pièces de théâtre, le symbolisme, la musique, l'architecture et le calendrier. Ils nous disent que juste dans les écrits de Shakespeare seul, il y a plus que 1300 références bibliques. Harvey Cox, un écrivain et professeur à l'Université Harvard aux États-Unis, a dit ceci. « Le sermon sur la montagne est le discours le plus cité, analysé, contesté, influent, moralisateur et religieux de toute l'histoire humaine. » Tout s'inclut dans ce livre que nous appelons la Bible. Que selon Abraham Lincoln, est le cadeau le plus précieux que Dieu a donné à l'humanité. Tout le bien qui vient du Sauveur du monde nous en est communiqué à travers ce livre, la Bible. Je suis d'accord avec son opinion sur la valeur de la Bible. Mais il est important de comprendre que la Bible n'est pas un livre. Elle est une compilation de livres. 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament, pour un total de 66 livres. 66 livres écrits par une quarantaine d'auteurs différents. en 3 langues différentes, hébreu, grec et un peu d'araméique, pendant une période de presque 1600 ans, de 1500 ans avant Jésus-Christ jusqu'à peu près 90 ans après Jésus-Christ, de Moïse, qui a écrit les premiers livres de la Bible 1500 ans avant Jésus-Christ, jusqu'aux écrits de Jean, qui inclut l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, dont la Bible est une compilation de livres écrits par des hommes, non pas par Dieu et non pas par un ange ou des anges. La Bible est un livre écrit par des hommes, des personnes qui ont vécu des choses, témoigné des choses, expérimenté concrètement des choses, entendu des choses et appris des choses, souvent en rapport avec Dieu, le Père, le Fils ou le Saint-Esprit. Parfois en tant qu'individu et parfois ou même souvent en tant que groupe ou peuple ou masse de personnes même et qui ont documenté leurs expériences dans des livres. Et ces personnes sont comme vous et moi, très humains, très imparfaits, très ordinaires. C'est des personnes avec des rêves, des ambitions, des déceptions, des faiblesses, des conflits, des crises de colère, des moments de solitude et dépression et de découragement, mais qui ont vécu des expériences concrètes avec Dieu. Un Dieu avec qui ils ont marché, parlé, lutté, questionné, débattu, et vers qui ils ont prié, crié, pleuré et loué. Un Dieu qu'ils ont aimé, parfois remis en question et souvent laissé tomber. Mais un Dieu qui les a changés, transformés, marqués et marqué l'histoire de leur vie. Les histoires racontées dans la Bible ont été vécues par ceux qui les racontent. Que ce soit Moïse, que ce soit les prophètes, que ce soit les disciples avec Jésus, ils ont été là. Et ils ont décrit leurs expériences d'une manière la plus exacte et détaillée que possible. Le livre des Actes dans le Nouveau Testament seul mentionne 54 villes, 39 pays et 9 îles, avec une préoccupation d'exactitude dans les détails qui ajoute à sa crédibilité historique. Et tous ces écrits ont été soigneusement copiés et préservés pour notre bénéfice, même des milliers d'années plus tard. Mais pourquoi il est important de savoir que les livres de la Bible ont été écrits par plusieurs hommes et non pas par un homme? Parce que selon vous, qu'est-ce qui est plus crédible? Le témoignage de plusieurs personnes qui ont vécu des choses semblables à travers des siècles et qui l'ont documenté, ou le témoignage d'un homme, une personne, qui sort du forêt ou du désert avec un livre écrit par un ange, ou avec des écrits que lui-même a reçus par révélation divine sur une île à quelque part, et qui nous dit, bien, lisez ça, croyez ça, c'est la vérité. Comme presque 100% des livres sacrés des sectes et des autres religions mondiales, incluant l'islam, écrits par une personne, par révélation personnelle. Tandis que moi, je préfère le témoignage de plusieurs personnes à travers plusieurs périodes. Mais parce qu'il est écrit par des hommes, il y a quelques petites variantes dans les détails et l'information donnée. Il y a des personnes pour qui les faits variants et les détails différents et les supposées contradictions trouvées dans la Bible sont une raison pour rejeter la Bible comme s'il n'était pas véridique, mais le contraire est vrai. Les variantes, les détails différents et les supposées erreurs sont la preuve que ce qui est écrit est vrai et non pas fabriqué par des gens avec un agenda personnel. Les quelques variantes et différences dans les histoires bibliques semblent poser un problème pour certains, mais à mon opinion, ils sont la preuve que ces histoires n'ont pas été fabriquées. Un livre écrit par une personne va avoir un début et une fin, et une histoire fluide et progressive entre les deux, sans répétition ou contradiction ou variante dans les détails de l'histoire. Mais un livre contenant 66 livres écrits par plus que 40 personnes, qui ne se connaissaient pas pour la plupart, écrit pendant une période de 1600 ans, impossible qu'il n'y ait pas des variantes dans quelques détails, chiffres, dates et noms. Et l'œuvre-là la preuve que la Bible est authentique comme document et non pas une fabrication. N'importe quel policier va vous dire que des vrais témoins d'un incident varient en certains détails dans leurs histoires, car chaque individu le voit et la vit à sa manière. et se souvient des choses un peu différemment que l'autre et focalise sur des parties divergentes. Mais l'essence de l'histoire demeure intacte si l'histoire est vraie. Un enquêteur devient suspicieux et méfiant quand les histoires sont trop exactes. Ça donne l'impression d'un mensonge ou un complot entre un groupe de personnes. Moi, je suis d'accord avec David Gustafson, directeur de Pacific Asia Christian University in Hawaii. Je crois que les contradictions dans la Bible revêtent une certaine beauté. Dieu parle par le biais de cette humanité faillible, tout en gardant intact le message central de la Bible. Imaginez, 40 hommes ont écrit ces choses, des choses, pendant une période de 1600 ans, dans un livre individuel et unique, sans savoir qu'on était pour inclure leur livre dans un autre livre 300 ans après Jésus-Christ, que nous appelons la Bible. Et malgré ça, le message central de la Bible demeure intact, sans aucune contradiction majeure, car il n'y a aucun fait, détail ou information dans les Écritures qui affecte l'essence du message. Et souvent, ils ajoutent à notre compréhension de l'histoire. Alors, le miracle est qu'il n'y a pas plus de variance dans leur histoire et récit, qu'il n'y a pas plus de détails qui varient. Mais à cause de quelques variations dans les détails banals et petits, on est prêt à rejeter la Bible au complet. Nous appliquons des critères et des standards à la Bible que nous ne faisons avec aucun autre document historique. Imaginez 4 personnes différentes qui écrivent la biographie de Napoléon, d'Alexandre le Grand, de Gandhi, mais avec quelques détails différents ou faits variés. Est-ce que nous jetons l'histoire au complet? Est-ce que nous disons, mais ces hommes n'ont jamais existé puis leurs bios ne sont pas légitimes parce que quelques variantes dans les histoires et les biographies des différents écrivains? Ridicule et absurde. Le message de la Bible, les histoires de l'Ancien Testament, la naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus demeurent très intacts. Aucun détail qui varie change l'essence de ce qui est écrit, mais nous sommes prêts à jeter l'ensemble pour un ou deux petits détails. Mais nous sommes d'accord qu'avec les centaines et centaines de variations de paraphrases, de traductions que la Bible a connues et connaît, il existe quelques peut-être erreurs, contradictions et changements de la version originale qui était sans erreur et infaillible. Mais non pas assez pour changer l'essence du message. Ils sont tellement minimes que c'est ridicule de balayer à côté l'ensemble des Écritures par rapport à cela. La description générale des événements dans la Bible et l'essence originale de son contenu n'a jamais été sérieusement doutée. Pour citer Sherwin White, historien et professeur d'université d'Oxford, toute tentative de rejeter l'historicité du livre des Actes des apôtres, même en ce qui a trait aux détails, doit maintenant apparaître comme étant absurde. Les historiens romains l'ont tenu pour acquis depuis longtemps. Alors, la Bible est une compilation de livres écrits par des hommes au sujet de Dieu, mais aussi avec l'aide de Dieu, soit par inspiration ou révélation. Et après avoir fait des études et la recherche exacte, et après avoir écrit des choses connues depuis longtemps et transmises oralement d'une génération à l'autre ou même par un mélange de tous ces facteurs. Comme exemple, Moïse qui a écrit le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible qui incluent l'histoire des premiers 2500 ans de l'humanité, incluant la création, n'a pas tout été écrit par révélation. Il n'a pas tout reçu ça par révélation ou par Dieu. Mais en grande majorité, il a écrit des choses qu'il a reçues selon la tradition orale. Ça veut dire des choses connues depuis longtemps, transmises d'une génération à l'autre. Moïse n'a pas inventé les histoires que nous trouvons dans les 5 premiers livres de la Bible, incluant l'histoire de la création. Il n'a pas inventé ou fabriqué. Ils ont été des histoires connues depuis le début et communiquées d'une façon précise avec la répétition, la mémorisation depuis des siècles. Moïse a tout simplement mis tout cela dans une forme écrite pour les préserver. Ça nous dit en Exode 7, 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, le souvenir des choses déjà connues. Et qu'est-ce que je veux dire par la tradition orale? Dans l'ancien temps, il y avait très peu de choses écrites, car l'écriture était dispendieuse et difficile et la majorité des personnes étaient illettrées. Alors, les histoires ont été transmises oralement, mais d'une façon très fiable et précise, communiquées d'une façon exacte, avec la répétition presque quotidienne, la mémorisation d'une génération à l'autre. Alors que ce soit Moïse qui a écrit l'histoire des premiers 2500 ans ou les évangélistes qui ont écrit l'histoire de Jésus 75 ans après la vie de Jésus, les histoires ont été connues, répandues, répétées, exactes et précises et presque impossible d'avoir oublié des faits importants. Luc décrit ces deux livres d'une autre façon. Remarque ce qu'il dit dans l'introduction de son premier livre. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Plusieurs personnes ont écrit au sujet de Jésus. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi que les gens sont scandalisés quand on parle de d'autres évangiles et d'autres histoires qu'ils ont découvertes sur la vie de Jésus. Luc nous dit plusieurs choses ont été écrites sur la vie de Jésus. Suivant ceux qui nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine et de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Luc n'est pas trop mystique ou spirituel. Il dit, « Il me semblait bon. C'était une bonne idée. Il y a tellement de choses qui ont été écrites. Moi, je vais l'écrire d'une façon exacte, pédagogique, avec beaucoup de recherches. » Mais que ce soit par révélation ou par la recherche ou par la tradition orale, tout écrivain a écrit par appel de Dieu et par ce qu'on appelle l'inspiration. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu, nous dit l'apôtre Paul. Ils ont écrit un mélange des choses. Connu, témoigné, appris ou vécu, mais écrit parfaitement et sans erreur. C'est ça l'inspiration. Mais en respectant toujours la personnalité de l'auteur. Ils n'ont pas écrit d'une façon... L'inspiration ne veut pas dire qu'ils ont écrit ces choses d'une façon robotique, mécanique ou en état de transe, comme si Dieu a pris possession de leurs mains. Non, mais plutôt comme un partenariat entre l'écrivain et Dieu, dont la raison que nous voyons dans les écrits de la Bible, on découvre la personnalité de l'écrivain dans les divers livres. On voit son style, son vocabulaire, sa manière. La définition de l'inspiration selon le théologien Meyer Perlman, l'influence surnaturelle de l'Esprit de Dieu sur l'Esprit de l'homme. Influence dont les prophètes, les apôtres et les auteurs des écrits sacrés ont bénéficié afin de proclamer la vérité divine sans aucune erreur dans sa forme originale. Et nous sommes conscients qu'aucun des manuscrits originaux n'existe aujourd'hui, de la Bible ainsi que tout autre écrit ancien de l'époque de la Bible, que ce soit Platon, Socrate, Aristote ou autres. Et quand vous étudiez le nombre de manuscrits existants, leur date, la précision, les soins appliqués dans le copiage et la préservation, et ajoutons à cela les découvertes archéologiques, les manuscrits de la Mer Morte, nous arrivons à la conclusion que la Bible est beaucoup plus crédible que n'importe quel autre écrit de l'époque que personne ne questionne. Il y en a qui vont demander, mais comment avons-nous arrivé à ces 66 livres, les 66 livres que nous appelons la Bible? J'ai rencontré un homme dernièrement qui m'a cité quelques faits des conciles catholiques sur l'histoire de l'Église qu'il a trouvé sur Internet au sujet de la compilation des livres pour être inclus dans ce qu'on appelle le canon des Écritures dans les années 300 par des hommes. Puis lui, il dit, mais c'est les hommes qui ont choisi quels sont les livres qu'on met dans la Bible et supposément, selon lui, ça réprouvait la crédibilité de la Bible. Sans prendre en considération tout ce qui avait pris place avant ces conciles qui renforcent la crédibilité des choses écrites, ainsi que les critères servis pour établir le canon. En plus d'autres faits historiques qu'ils ignoraient, un peu de connaissance peut être une chose dangereuse. Il faut comprendre, les livres inclus dans le canon n'ont pas été choisis d'une manière hasard et aléatoire, mais avec des critères précis pour être mis dans ce qu'on appelle le canon des Écritures. Finalisé en 367 après Jésus-Christ, où les livres crédibles de l'Ancien Testament et Nouveau Testament ont été mis ensemble dans ce que nous appelons la Bible aujourd'hui. D'abord, il faut comprendre que les livres de l'Ancien Testament ont déjà été reconnus, même dans le temps de Jésus, par un travail d'Esdras et quelques autres personnes 500 ans avant Jésus-Christ. Et c'est pour cela que Jésus et les apôtres disaient souvent, « Comme nous dit Moïse, la loi et les prophètes, et presque tous les livres de l'Ancien Testament sont cités à quelque part dans le Nouveau Testament. 263 citations directes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament et 370 indirectes. Alors, les livres de l'Ancien Testament ont déjà été canonisés, rendus l'époque du Nouveau Testament, et avaient déjà une crédibilité avec Jésus, les apôtres et les Juifs de l'époque. En ce qui concerne les livres du Nouveau Testament, voici les critères pour qu'ils soient inclus dans le canon des Écritures. Il y avait quand même des critères établis pour qu'ils soient inclus dans le canon. D'abord, la reconnaissance. Les livres inclus dans le Nouveau Testament n'ont pas été choisis d'une façon hasard ou arbitraire, mais parce qu'ils ont déjà été, reconnus comme valables, crédibles et possédant d'une autorité divine. Ils ont déjà été cités, utilisés, reconnus par l'Église et les pères de l'Église, les disciples des disciples. Le canon ne donnait pas l'autorité à ces livres. Ils ont tout simplement reconnu l'autorité déjà existante pendant presque 300 ans partout dans le monde. Il y a une multitude de livres qui ont été écrits sur Jésus et la vie chrétienne, mais seulement les livres connus, déjà connus comme crédibles et inspirés, ont été inclus. Alors, nous avons un premier critère, déjà cité et reconnu comme crédibles et inspirés. La deuxième, c'est l'autorité apostolique. Ça veut dire qu'il fallait que l'écrivain soit un témoin oculaire, comme un des disciples, ou quelqu'un qui a côtoyé les disciples, ou l'apôtre Paul, qui est un apôtre exceptionnel. C'est pour cela qu'on appelle le canon fermé. Nous ne pouvons pas ajouter à la Bible, car les apôtres et les témoins oculaires sont tous morts, évidemment. Et en plus, nous pouvons ajouter les autres critères. Il fallait que les livres, on voit l'unité, on voit la précision, il fallait voir l'édification, il fallait que ce soit factuel et vérifiable et que ce soit en accord avec la foi chrétienne et la bonne doctrine. Alors, ce n'était pas juste d'une manière arbitraire qu'ils ont choisi ces livres, il y avait vraiment des critères pour être inclus dans le canon que nous avons fermé, que nous appelons la Bible aujourd'hui. Des critères que les livres apocryphes ne rencontrent pas. Alors, si vous ne voulez pas croire le contenu de la Bible, c'est votre choix. Et vous allez vivre les conséquences de votre choix. Mais vous ne pouvez jamais questionner sa validité et sa crédibilité. La Bible est un document historique, authentique, documenté, crédible et valable, que vous le croyez ou pas. Au-delà d'être un livre extraordinaire, captivant et durable, il est un livre vrai. Un livre historiquement crédible et un document fiable de tout point de vue. Et Jésus ne doutait jamais la crédibilité des Écritures, la crédibilité de l'Ancien Testament, la seule Bible que lui avait en son temps. Jésus n'arrêtait pas de citer l'Ancien Testament. Et toujours comme si c'était des vraies personnes, des vraies histoires, des vrais endroits, sans équivoque. Et c'est pour cette raison que non seulement que j'admire la Bible, mais je suis convaincu que qu'est-ce qu'elle dit par rapport à Dieu, la création du monde, l'histoire d'Israël, l'histoire de Jésus et la première Église, ainsi que la nécessité d'être né de nouveau par la foi en Christ, est vraie. La Bible est vraie. Mais elle est non seulement vraie, elle est remarquable. Et je termine ce message avec quelques faits remarquables de la Bible. D'abord, sa précision. La Bible n'est pas un livre purement scientifique, historique ou astronomique, mais ce qu'elle dit sur ces sujets est relativement très précis. La Bible n'est pas écrite dans un langage scientifique, mais tout ce qu'elle dit par rapport à la science est exact, comme nous avons vu dans le message de Dr. Stephanie Reeder-Poirier. Dieu établit des lois scientifiques, biologiques, astronomiques et mathématiques, et avec le temps et la recherche, on les découvre. Je vous donne juste quelques exemples. Car le temps ajoute à la crédibilité de la Bible et non pas l'enlever. Juste quelques exemples de cela. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Il entend le septentrion sur le vide. Il suspend la terre sur le néant. Exactement ce que nous avons découvert par rapport à la terre. De même qu'on ne peut compter les étoiles dans les cieux, ni mesurer le sable de la mer. La multitude des étoiles et du sable sur la terre, même dans ce temps-là, il savait. Côté médecine, car l'âme, la vie de la chair, est dans le sang, la valeur du sang, l'importance du sang pour le corps. Et un autre que nous trouvons aussi dans le psaume, « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. L'être humain est une créature merveilleuse. Et ça, ça devient de plus en plus vrai avec la découverte de l'ADN, les merveilles du cerveau, tout ce qui est écrit dans la Bible, la science et la découverte donnent la validité et ajoutent à la crédibilité des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Alors, sa précision, une autre chose remarquable, c'est son unité. Son unité. Malgré 66 livres, 40 plus d'auteurs et 16, et pendant 1600 ans, elle est unie dans ses enseignements et le thème principal demeure cohérent. Facile quand il y a un ou peut-être deux écrivains qui travaillent ensemble, comme le Coran, les Analectes, les écrits de Bouddha, les écrits mormons et témoins Jéhovah. Une personne qui écrit ces choses. Tandis que la Bible a été écrit par des poètes, des prophètes, des princes, des rois, des pêcheurs, des marins, des soldats, des hommes d'affaires, des prisonniers, des collecteurs de taxes, des érudits puis des non-éduqués, un médecin puis des avocats, à travers 500 ans, et son message demeure uni et intact. Wow! C'est fabuleux, c'est miraculeux. Les 66 livres ne se contredisent pas, ils se complimentent. Nouveau Testament ajoute à la compréhension de l'Ancien Testament et l'Ancien Testament ajoute à la compréhension du Nouveau Testament. C'est magnifique. Il y a également sa profondeur. Nous pouvons lire et relire 100 fois la Bible sans perdre l'intérêt et découvrir encore des choses nouvelles. Il y a sa circulation. Elle est lue et connue à travers le monde en plus que 2000 langues. Sa durabilité. Un très faible pourcentage de livres dure 25 ans, encore moins 100 ans, et très peu après 1000 ans. La Bible est encore best-seller après 2000 ans, tout à fait unique, exceptionnel. En plus, la Bible est le livre qui connaît le plus de vols à l'étalage que n'importe quel autre livre. Imaginez, c'est ironique, le livre le plus volé est celui qui dit précisément « tu ne voleras pas ». Ça, c'est comme tricher sur un examen à l'ETF sur l'importance de l'intégrité. C'est un non-sens, mais c'est une réalité. Et également, sa préservation. Malgré la persécution et les plusieurs tentatives de la discréditer, réprouver ou la faire disparaître tout simplement, la Bible est le livre le plus attaqué, dénigré, disputé, débattu, évalué et examiné, renié, banni, détruit et même proscrit légalement de tous les livres de l'histoire de l'humanité. Mais elle est encore là, best-seller. Moi, je dis souvent, frapper sur la Bible, c'est comme frapper sur l'enclume du forgeron avec un marteau. Éventuellement, le marteau va se briser, mais l'enclume demeure. La parole de Dieu demeure depuis toutes ces années. Puis en dernier, il y a l'accomplissement de ses prophéties. Il y a sa précision, son unité, sa profondeur, sa circulation, sa durabilité, sa préservation, et aussi l'accomplissement de ses multiples prophéties. 800 prophéties de toutes sortes dans l'Ancien Testament, dont plus que 300 prophéties messianiques, 200 prophéties dans le Nouveau Testament, plus que 1000 prophéties en tout, dont plusieurs ont déjà été accomplies avec d'autres à venir, comme le retour de Jésus, le jugement, la destinée éternelle de toute l'humanité, soit au ciel ou l'autre place. Et si les autres centaines ont été accomplies, il y a des très bonnes chances que ceux-là vont être aussi. Et c'est pour cette raison que nous prions, nous prêchons, nous travaillons, nous servons pour préparer le plus grand nombre de personnes pour la suite, l'accomplissement des autres prophéties de la Bible, le retour de Jésus et l'éternité. Si les autres ont été accomplis, ceux qui ne sont pas accomplis encore vont être accomplis. Alors, en conclusion, voici ce que j'ai écrit à un homme qui questionnait ma confiance dans la parole de Dieu parce que j'ai avoué que la parole est écrite par des hommes. Oui, avec l'aide et l'inspiration de Dieu, mais écrite par des hommes quand même. Puis voici ce que j'ai répondu dans mon courriel. Après toutes mes études et recherches au sujet de la Bible et de la foi chrétienne depuis des années, après avoir obtenu une maîtrise en théologie biblique, je suis encore plus convaincu que jamais que ce que nous appelons la Bible est la parole de Dieu, en lettres majuscules. En plus, des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes, beaucoup plus instruites et intelligentes que moi, croient la même chose. Incluant des mathématiciens, des scientifiques, des archéologues, des astronautes, des historiens, des PhD en textes et manuscrits bibliques. Et parce que la parole de Dieu est vraie, et parce que la Bible est vraie, et parce que la Bible est la parole de Dieu, nous sommes mieux de l'écouter puis de la pratiquer, sinon il y a des conséquences. Nous négligeons la Bible à notre propre péril. Daniel Webster a dit ceci, « et je suis d'accord avec lui. Si nous vivons selon les principes qui nous sont appris dans la Bible, notre pays sera prospère. Cependant, si nous et notre postérité négligeons ces instructions et autorités, aucun homme ne peut dire à quel moment une catastrophe peut nous anéantir et enterrer toute notre gloire dans une obscurité profonde. L'importance de suivre les instructions de la Bible. Retournons au principe de la Bible. Retournons vers les principes de la Bible, les pratiques de la Bible. Et non seulement les principes que nous aimons, mais même les principes que parfois nous n'aimons moins. C'est saint Augustin qui a dit, « Si vous croyez en ce que vous aimez et ne croyez pas en ce que vous n'aimez pas dans la Bible, votre confiance ne repose pas sur la Bible, mais sur vous-même. » Ça, c'est bien dit. Moi, je préfère avoir une confiance dans la Bible, une confiance en Dieu. Et parce que la Bible est vraie, et moi, je suis convaincu de la crédibilité et la véracité de la parole de Dieu, et parce que c'est vrai, ça change tout pour moi. Ça change la façon que je vis, la façon que je parle, la façon que je me comporte. La Bible a une influence sur mes gestes, mes choix, mes décisions, la façon que je vois les autres, la façon que j'adore, la façon que je pratique ma foi et que je m'exprime devant Dieu, ce que j'appelle mon adoration. Et je termine avec cette dernière citation du théologien du Nouveau Testament, N.T. Wright, qui a dit ceci. « En adorant le Dieu que nous voyons en Jésus, tout notre être, notre imagination, notre volonté, nos espoirs, nos peurs sont dirigés loin du monde où Mars, Mammon et Aphrodite, la violence, l'argent et le sexe ont des exigences absolues et punissent tous ceux qui résistent. L'adoration chrétienne est une déclaration que Dieu est et que Jésus est Seigneur. Nous adorons parce que c'est vrai. » Demeurez là pour un dernier chant appelé « Waymaker ». Et chanter ces paroles avec l'équipe de chanteurs et musiciens, des paroles qui disent « Tu traces un chemin, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est qui tu es. » Et n'oubliez jamais, il y a dans les cieux un Dieu qui nous aime, un Dieu qui est présent, un Dieu qui est puissant, un Jésus qui revient un jour décrit et découvert dans ces 66 livres ici que nous appelons la Bible. Il y a dans les cieux un Dieu pour moi et pour vous. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.